Je voulais savoir d'abord votre sentiment général sur ce qui s'est passé à Fukushima.
Ah bien, c'est d'abord l'accident le plus improbable qui pouvait se produire dans une centrale nucléaire, puisqu'on est dans le pays le plus haute technologie au monde, et on pouvait penser que les Japonais, qui sont capables de fabriquer les appareils les plus sophistiqués, savaient maîtriser le nucléaire. Et donc, c'est pas de là qu'on attendait un accident grave. Il s'est produit, et donc c'est effectivement la première leçon à tirer, c'est que quel que soit le pays, la technologie nucléaire présente des risques qui sont très très difficiles, peut-être pas impossibles, mais en tout cas très difficiles à maîtriser.
Très bien. Alors, je voulais savoir, parce que vous êtes resté en France, j'imagine, mais vous avez deux de vos collègues qui sont partis au Japon, c'est M. Bruno Charéron et M. Christian Courbon. Ils sont revenus en France depuis une semaine. Est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont relevé là-bas sur place? C'est quoi les premiers résultats?
Alors, on n'a pas rédigé de rapport. Oui, effectivement, ils sont restés deux semaines là-bas. C'est le directeur du labo et le technicien de terrain. Et ils ont fait... D'abord, on est allé là-bas à la demande des Japonais. À la demande de qui? Ben, d'abord, des citoyens japonais qui s'étaient connectés par Internet. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 25 ans avec Tchernobyl. Et puis, c'était des associations, c'était des comités de quartier, etc. Donc, on était très attendus au Japon pour faire quoi? Ben, faire des mesures dans l'environnement, parce que les Japonais, curieusement, n'arrivent pas à avoir des valeurs sur la radioactivité présente dans l'environnement, présente sur les sols, présente dans les aliments, et ce qui fait qu'ils ne savent pas exactement dans quel état se trouve leur environnement. Ça, c'est la première demande, parce qu'ils n'ont plus confiance aujourd'hui à leurs autorités, ni à TEPCO, l'exploitant, la première chose. La deuxième chose, c'était de les aider pour créer quelque part une structure qui pourrait s'appeler la CRAD, évidemment qui ne s'appellera pas la CRAD, c'est-à-dire un laboratoire indépendant de mesure de la radioactivité, parce que au Japon, ils découvrent que toute l'information, elle émane de l'exploitant, elle émane de l'État, elle émane d'organismes officiels qui ont montré à cette occasion-là justement leurs mensonges, les défaillances, le manque d'informations, des informations tronquées, biaisées, etc. Et donc, ils découvrent ce que nous, on a découvert, la CRAD, il y a 25 ans avec Tchernobyl, eh bien que, oui, il y a un problème d'information et qu'il est indispensable, si on veut avoir l'information, de se doter, nous, les citoyens, en association, de se doter d'outils pour mesurer la radioactivité.
Alors justement, à propos de cette enquête qui a été menée au Japon par vos collègues, apparemment j'ai une information, alors peut-être que vous avez confirmé ou infirmé, qu'il y a un certain nombre de capteurs GGR qui ont été bloqués à la frontière.
Alors ce qu'on dit, ce qui semble être confirmé, là on n'en a pas la preuve, mais c'est qu'il y aurait entre 30 000 et 40 000 compteurs GGR qui sont bloqués à la douane de Narita, c'est l'aéroport de Tokyo, qui ont été envoyés par tout un tas de gens de pays, Canada, France, Angleterre, en aide aux Japonais. Parce que la première chose que les Japonais ont demandé aux étrangers, c'était d'avoir des compteurs GGR. Il y en a même, y compris pour l'ambassade de France, d'ailleurs, à Tokyo. Eh bien, les douanes japonaises ont beaucoup de réticence à dédouaner, à laisser passer ces compteurs. Et donc, il y a une interpellation qui a été faite la semaine dernière par une députée au Parlement japonais qui interpelle les ministres, en particulier le Premier ministre, en disant « mais comment se fait-il ?» Et là, c'est vrai qu'il y a des témoignages comme quoi le Premier ministre reconnaît qu'il y a bien ces compteurs, mais que c'est un problème administratif qui va se régler dans les jours qui viennent. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ces compteurs ont été débloqués, mais en tout cas, c'est une vraie info, ce n'est pas une rumeur. Que les Japonais, le gouvernement japonais n'a pas vu du tout d'un bon œil l'arrivée de compteurs étrangers. Alors nous, évidemment, on savait un petit peu tout ça. C'est pour ça que on est allé discrètement au Japon. On n'a pas du tout annoncé notre venue et on n'a pas eu de problème avec notre matériel, mais parce que je pense qu'on a été très discret. Si on avait annoncé un peu à l'avance notre arrivée avec tout nos matériels, on aurait peut-être, je ne sais pas, eu quelques problèmes. En tout cas, on ne peut pas l'affirmer.
Bien. Visiblement, le contrôle de l'information là-bas est très strict par rapport à la catastrophe.
Absolument, l'information et les médias japonais sont vraiment infiltrés par le lobby nucléaire. Et ce qui est surprenant, c'est que avant de repartir du Japon, nos deux salariés, nos deux responsables pirates, ils ont fait une conférence de presse à Tokyo. Eh bien, ils avaient invité tous les médias japonais et étrangers. Eh bien, sur les 25 médias présents, journalistes présents, hein, eh bien, il n'y avait que deux japonais. Ça veut dire que les médias japonais ne sont pas très curieux d'aller trouver de l'information auprès d'experts indépendants. Ça montre que, les médias couvrent, je dirais, l'exploitant.
C'est là qu'on voit la solidarité via Internet, où on découvre quasiment tous les jours des vidéos, notamment de Tokyo, dernièrement, avec des niveaux de contamination assez étonnants, d'ailleurs.
Oui, mais ça, c'est vrai depuis 3 mois maintenant. Ça fait 3 mois que la catastrophe a eu lieu. Eh bien, il y a une contamination de l'environnement qui date des premiers jours. Sauf que l'exploitant qui a perdu la main dès les premiers jours ne veut pas le reconnaître. Et il le reconnaît par petits bouts. Les Japonais, bon, qui sont pas plus idiots que les autres, hein, ils se rendent bien compte qu'on les mène en bateau depuis 3 mois. Donc, il n'y a plus aucune confiance des Japonais dans leurs autorités. Dans l'exploitant. Donc, il y a une défiance énorme. C'est pour ça que la demande, alors par Internet évidemment, parce que ce moyen-là existe, d'informations venant de l'étranger est énorme. C'est pour ça que nous, on a constaté que très rapidement, le site Internet de la Kirad, il était consulté par les Japonais. Évidemment, par les Français en premier, mais tout de suite les Japonais derrière. Ça montre bien qu'il y a une demande de la part des citoyens japonais à avoir une information indépendante.
Alors, on parle de 20 millisieverts pour un homme, la dose normale pour un homme, hein, au niveau de la radiation. Donc, à Tokyo, dans ces environs, c'est quoi le niveau ?
Alors, c'est difficile de généraliser. Alors, quand on parle de 20 millisieverts, ce n'est pas la limite normale pour un homme. Pour un citoyen du public, la limite maximum annuelle, elle est de 1 millisievert. Sauf qu'en situation accidentelle, les normes valables en situation normale ne sont plus valables. C'est pour ça qu'on les gouvernements, ça il faut que le citoyen le sache, c'est qu'en situation accidentelle, on est prêt à obliger les citoyens à ingurgiter des doses supérieures. 20, voire plus, 50, voire 100. Les travailleurs qui normalement sont à 20 millisieverts par an, là, on a monté leur limite à 100, voire 200, voire 300. Donc, en situation accidentelle, les limites ne sont plus, sont fonction de la nécessité. Et la nécessité, c'est quoi ? Ben, c'est ou vous évacuez les gens, et ça coûte évidemment très très cher, ou vous laissez les gens vivre sur place. Et là, ils se reçoivent des doses. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que très loin de la centrale, c'est-à-dire à 80, 100 km, vous avez une contamination, pas dans toutes les régions, mais dans une direction au moins, c'est-à-dire en allant vers le nord, légèrement ouest, vous avez une contamination de l'environnement qui est très importante et où les gens ne sont pas du tout évacués. Et le gouvernement leur dit quoi ? Ah ben, vous pouvez partir. Oui, mais si vous partez, vous ne touchez aucune indemnité. Et le choix qui est fait par le gouvernement, c'est un choix économique, purement économique. C'est-à-dire, si on évacue à 50, 60, 80 km de la centrale, ça coûtera d'autant plus cher. Et il y a un coût qui, évidemment, ne sera pas pris en charge par TEPCO, mais qui sera à la charge de la collectivité locale ou nationale japonaise. Et là, visiblement, les Japonais ne sont pas prêts à mettre de l'argent dans ce sens-là.
Alors justement, on pense que TEPCO a bien géré la crise, parce que dans le début de cette catastrophe, ils ont limité à 10 km la possibilité de fuir la centrale. Ensuite, ça a été 20 km, ensuite 30. Vous nous parlez de 100 km, mais en fait, quelle est la limite où on ne risque plus rien en fait, par rapport à ça ?
Ah mais on peut pas. La radioactivité ne s'est pas répandue en cercle autour de la centrale. Donc, quand on parle de 10, 20, 30, 50, 80 km, ça ne veut rien dire. Il faut parler de quelle direction. Or, la zone 10 km, c'est clair, elle est très contaminée. La zone 20 km aussi. Elles ont été évacuées trop tardivement, alors qu'elles étaient déjà très contaminées, ces zones. Donc, on a évacué les gens, mais trop tardivement. Ça, c'est déjà criminel. On ne leur a pas distribué des comprimés d'iodotables ou trop tard. Après, quand on est dans la zone entre 20 et 30, là, on est ce qu'on appelle dans l'évacuation libre. C'est-à-dire mise à l'abri, et si vous voulez partir, vous pouvez partir. Ben, évidemment, c'est totalement idiot. Les gens, où est-ce qu'ils peuvent aller? Ils n'ont pas de choix que de rester sur place. Ça, on sait que dans ces zones-là, on est très proche de la centrale, on est dans des contaminations importantes. Et après, au-delà, ben, au-delà, ça dépend de quelle direction vous partez. Si vous partez en direction du nord, légèrement ouest, la contamination elle ne diminue pas à mesure qu'on s'éloigne. Elle reste très importante. Par contre, si vous partez en direction de Tokyo, la contamination diminue. Mais vous avez des zones où elle est très importante. Heureusement, Tokyo n'a pas été très touché jusqu'à maintenant. Mais comme il y a des rejets qui continuent aujourd'hui en permanence, rejets aériens et rejets liquides, le phénomène n'est pas terminé, donc on ne peut pas dire, au final, si on ne sera pas obligé d'aller évacuer encore beaucoup plus loin.
C'est une information qui circule même parmi les milieux officiels japonais, trouver une alternative à Tokyo. Hein. C'est assez surprenant. Alors, au niveau de la contamination, est-ce que vous pensez que ça a été géré correctement? Parce que selon la LIEA, ça a été géré tout à fait dans les règles. Mais en étant allé sur le terrain... on sait déjà que les ordres d'évacuation ont été portés trop tard, qu'il y a beaucoup de zones contaminées. Mais sur le terrain, en pratique, est-ce que vous pensez que c'est quand même correct, hein, ou...
Non, le rapport de la IEA qui vient de sortir, qui est en train de sortir en ce moment, leur mission, elle est totalement, je dirais, hypocrite. Ils vont deux mois après sur le terrain, ils rencontrent TEPCO, ils ne vont pas rencontrer les gens. Hein, ils n'ont pas fait de mesures sur le terrain, visiblement, ils n'ont pas de chiffres, et donc ils ne veulent pas fâcher TEPCO, donc ils disent « oui, TEPCO s'est pas mal débrouillé ». Je suis désolé, vous posez la question à n'importe quel citoyen qui a suivi un peu l'actualité, il vous dira « non, TEPCO a très mal géré la situation à l'intérieur des centrales ». Bon, ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que TEPCO a informé la population, est-ce qu'il s'est donné les moyens d'avoir l'information sur la radioactivité de l'air, sur la radioactivité sol, pour pouvoir protéger les populations, apporter des mesures de prévention. Et là, on a eu l'occasion d'interroger un responsable de TEPCO en lui disant « Mais comment se fait-il que pendant deux mois, on n'a eu aucun chiffre sur la contamination exacte de l'air, radionucléide par radionucléide, heure par heure, et lieu à chaque endroit ?» à 10, 20, 30 kilomètres, 50 kilomètres de la centrale. Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu ça? Nous, c'est la première chose qu'on a demandé, nous, l'ACIRA. On veut ces chiffres-là pour évaluer si les mesures de prévention qui sont prises sont pertinentes, est-ce qu'elles sont protectrices des populations ou au contraire, elles sont totalement insuffisantes. Ben, TEPCO répond en disant ben, « nos appareils étaient en panne ». On dit « attendez, à 20 kilomètres, le tsunami n'a pas fait endommager vos capteurs ». Et elle dit « Ah ben non, mais c'est parce qu'il manquait d'électricité pour les faire fonctionner. » Et il dit « Mais ils n'ont pas été capables d'apporter une toute petite source d'énergie pour ces capteurs à 20 km pour les faire fonctionner et avoir cette information. » Ça, c'est l'information. C'est le béaba, je dirais, de la gestion de crise sur lequel TEPCO, c'est criminel la position qu'il a adoptée, de ne pas se donner les moyens d'avoir cette information clé pour la protection des populations. Après, ben, ça va avec la suite. Si vous n'avez pas l'info, vous faites pas grand-chose ou trop tard, ou etc. Et vous faites un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, vous tergiversez, et là, les gens sont bien rendus compte que TEPCO naviguait dans n'importe quel sens. Il n'y avait pas de stratégie. Donc, est-ce qu'ils étaient prêts, TEPCO, à ce genre de situation? Et là, l'AIEA, quand même, on reconnaît que TEPCO n'avait peut-être pas anticipé tout ce qu'il aurait fallu faire. Ben, c'est un minimum, je dirais, quand même. Hein.
Ah, c'est marrant, parce que ce n'est pas forcément les infos qui circulent. Comme quoi, enfin, selon l'AIEA, la gestion a été admirablement... dans l'information, dans la presse, après, dans le détail du rapport, je pense...
Le message à l'AIEA, si voilà. Vous lisez complètement le message à l'AIEA,
tout à fait,
ouais. Évidemment, ça n'a pas été repris beaucoup dans les médias. C'est la deuxième chose, c'est que quand même l'AIEA reconnaît que TEPCO a une certaine responsabilité dans la situation. Ouais. Il ne se mouille pas beaucoup, hein, mais c'est quand même dit. Hein.
Est-ce qu'on peut prendre en compte L'expérience du peuple japonais qui a déjà vécu la bombe Hiroshima Nagasaki et a survécu à certaines zones contaminées, est-ce que ça peut rentrer en jeu dans leur méthode de gestion de crise actuelle, même si c'est visiblement assez énorme?
C'est une grande question. Dans un pays qui a connu Hiroshima, qui a connu la bombe atomique, c'est quand même la pire des choses, je dirais, dans le nucléaire. Deux bombes, des milliers, des centaines de milliers de gens concernés, une vraie plaie dans l'histoire du Japon. Comment se fait-il que les Américains, ceux qui ont mis les bombes, ce sont eux qui ont installé le nucléaire au Japon? Et comment ils ont pu faire ça sans que les Japonais se posent des questions là-dessus? Soit un peu interrogateur. Ça, je ne comprends pas. Vraiment, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. J'espère que des sociologues, un jour, analyseront, ou des anthropologues, analyseront comment on a pu faire un nucléaire dans un pays qui a connu Hiroshima, Nagasaki, et qui connaît des séismes et des tsunamis depuis toujours. Et comment on peut faire un nucléaire sans précaution très particulière, parce qu'aujourd'hui on reconnaît que l'installation de Fukushima n'était pas construite aux normes antisismiques qu'aurait dû avoir si elle était au Japon.
Alors justement, moi j'aimerais vous interroger sur la question de la gestion de la crise, parce que à mon avis, selon votre site La Crigrade, vous dites à un moment donné que des secteurs géographiques contaminés qui n'ont pas encore été identifiés 4 mois après la catastrophe. Donc, à mon avis, la gestion de la crise a été complètement out, là, à mon avis, non?
Oui, c'est ce que je vous disais avant. Ils ne se sont pas donné les moyens de caractériser la radioactivité dans l'air, dans l'air, dans les sols, dans le lait, etc., dans les épinards, de manière complète. Alors, on a pu arriver à avoir quelques chiffres, mais pas de la part des autorités, d'ailleurs, de la part de laboratoires, autres, universitaires, municipaux, etc. Mais de la part des autorités, il n'y a eu aucune stratégie. Et l'exploitant lui-même n'a pas mis en place tout ce qu'il fallait pour ça.
Alors, n'avez-vous pas craint que ça fasse un peu comme Tchernobyl, où à l'époque, l'État russe disait qu'il n'y avait que 34 morts avec les radiations
C'est l'État russe qui disait ça, attention.
Oui, c'est pas les Russes, je m'entends bien sûr.
L'État russe, lui, le premier bilan qu'a présenté l'État russe après Tchernobyl, qui était sans doute pas tout à fait correct, pas insuffisant, mais c'était 40 000 morts.
Oui. J'ai vu le chiffre de 34, morts. Alors je ne sais plus d'où ça venait. Alors, mais...
les 53 morts, c'était les pompiers. Par contre, les Russes, la première réunion qui a eu lieu après Tchernobyl, organisée par la IEA, l'Agence nationale d'énergie atomique, était de 40 000 morts. Et c'est l'IEA qui a dit non, c'est inacceptable. 40 000 morts, on veut bien, au bout du bout, en reconnaître 4 000.
D'accord.
4 000. Et curieusement, ce 4 000 a disparu des rapports, et il est ressorti dans le rapport IEA récent, c'est-à-dire de 2006.
Oui.
À nouveau, on dit, ça pourrait être 4 000. Voilà. Mais au départ, les Russes avaient évalué, je ne parle que pour la Russie, avaient évalué à 40 000, rien que pour eux.
Ils étaient en dessous de la vérité, j'imagine, aussi, non? Même à 40 000, non?
Pardon?
Ils étaient en dessous de la vérité à 40 000 ou...
Ils étaient en dessous de la vérité. D'accord. Mais de combien, j'en sais rien. Moi, ce qui est étonnant, c'est que les Russes avaient apporté des documents à cette réunion qui, paraît-il, étaient béton, comme on dit, c'est-à-dire sérieux. Ce n'est pas un chiffre sorti d'un chapeau. Les chiffres de l'IEA, ils sortent des chapeaux. Il n'y a aucune preuve. Les Russes apportent des preuves sur la table. Et on les balaye d'un revers de manche en disant « Non, c'est inacceptable, ça rendrait l'énergie nucléaire inacceptable, 40 000 morts, c'est beaucoup plus que Bhopal, c'est beaucoup plus que… etc. Donc c'est inadmissible, on ne prendra pas ce chiffre-là. » Voilà comment ça s'est réglé, le problème en 87.
Oui, justement, la question qui pourrait naître au fur et à mesure de la gestion de cette crise de Fukushima, y en aurait deux, parce qu'on parle d'une crise qui n'est pas résolue, en plus. Y a-t-il un moyen de trouver une solution qui soit plus pertinente qu'actuellement? ou des moyens de motiver la communauté internationale pour réagir dans le bon sens, parce que visiblement c'est une question qui est devenue privée, gardée par le gouvernement, mais bon, plus que privée, plus privée qu'autre chose, et où la communauté internationale est appelée de temps en temps par coup. Donc il y a une volonté d'écarter la communauté internationale. Et ensuite,
mais de quelle communauté internationale vous parlez ? Parce que si c'est l'AIEA, les dés sont pipés d'avance. Hein.
Oui, non, je parle de la
c'est une agence de promotion des nucléaires, l'AIEA.
De l'autre communauté internationale scientifique qui a réagi suite à l'accident et essentiellement constituée de gens qui peuvent faire partie d'organismes et qui montrent une certaine liberté ou une certaine indépendance.
Cette communauté internationale, elle n'existe pas. Elle est à construire. Il y a des experts indépendants d'un certain nombre de pays, comme il y en a, comme la CIRAD en France, etc. Il y a des experts indépendants. Sauf qu'on n'est pas organisé au niveau international pour faire le poids face à une agence maîtresse de l'ONU, il faut bien reconnaître, qui a tous les moyens, on ne fait pas le poids. Donc, si les politiques au niveau européen, avec Euratom, au niveau international, l'ONU, avec l'AIEA, ne remettent pas les pendules à l'heure, ces agences, quand même, elles ont été créées, que ce soit Euratom ou AIEA, à une époque, après-guerre, où on croyait de manière complètement naïve que l'énergie nucléaire allait apporter la paix sur la planète. C'était le programme Atom for Peace, ça veut bien dire son nom. Alors, si 50 ans après, on n'est pas plus de 50 ans après, nos hommes responsables politiques élus ne sont pas capables de dire « bon, ben, ça, c'est du passé quand même ». Il va bien falloir remettre sur la table ces accords, ces plans. Hein. Il ne se passera rien si on n'agit pas, si les hommes politiques n'agissent pas. Parce que sinon, on laisse le champ libre au lobby. Et le lobby, évidemment, il est très fort dans ce domaine-là.
Alors moi j'ai une question à vous poser parce que j'ai vu encore sur votre site, parce que moi je suis pas parti au Japon malheureusement, j'aurais bien aimé pu vous aider éventuellement avec mes faibles moyens, mais pourtant je suis pas un scientifique, donc je suis très bien aussi là où je suis. Mais je voulais savoir quelles étaient les précautions à prendre pour les aliments de première nécessité, parce qu'on a vu qu'à Tokyo, comme vous disiez, c'est faible dose, hein, mais les poissons dans les mers, etc., enfin dans les rivières, etc., ils ont sans doute été quand même contaminés, j'imagine.
Sont reconnus contaminés. En théorie, les autorités japonaises interdisent la pêche sur une zone de plus de 100 km sur la côte autour de Fukushima, au nord et au sud. C'est censé être interdit. Moi, je ne suis pas certain que ce soit appliqué. Quand je vois, nous, on n'est pas allé voir sur la côte, on est allé à l'intérieur des terres, et les gens, ben, ils sont condamnés, parce qu'on ne leur apporte pas d'autres solutions, ils sont condamnés à consommer leurs propres produits. Ce qu'ils trouvent dans leur environnement. D'accord. Ils le savent que c'est contaminé. Ils savent qu'ils prennent des risques. Mais ils n'ont pas d'autre solution. Ils n'ont aucune autre solution. Ils sont pris au piège.
C'est le pays du poisson en plus, donc c'est vrai que c'est pas évident, hein, j'imagine.
Alors, au niveau des poissons, je pense que le risque, il n'est pas trop au niveau des poissons qui sont pêchés au large. Par contre, sur tout la faune et la flore côtière, oui, la contamination est très importante. C'est certain. C'est certain. Là, il faut se méfier des algues, des crustacés, etc. Tout ce qui est produit côtier.
On suppose que l'explosion du réacteur numéro 3 contenait une quantité de plutonium plus élevée que les autres réacteurs à cause du MOX. Est-ce que ça n'aggrave pas la situation actuelle au niveau de la contamination alimentaire, même manufacturière d'ailleurs? Est-ce que ce n'est pas un facteur que vous avez pu constater sur place?
Alors, nous, on n'a pas pu le constater parce qu'on n'est pas allé très proche de la centrale. Ce qui est certain, c'est que contenant plus de plutonium, puisqu'il en gros, il en contient entre 5 et 8 fois plus qu'un réacteur normal, ce réacteur-là, de plutonium. Donc, à partir du moment où il a été accidenté, il en a projeté à l'extérieur. Heureusement, le plutonium est relativement lourd. Donc, il n'est pas allé très loin. Et nous, on a ramené des échantillons, mais qui ne sont pas de la zone 20 km. Ce qui est reconnu aujourd'hui, mais qui n'est pas là encore un scoop, c'est qu'il y en aurait à l'extérieur du réacteur. Mais je ne vois pas comment il aurait pu ne pas sortir. Il en est forcément sorti. Sauf que quand on s'éloigne, heureusement pour les Japonais, cette quantité de plutonium rejetée, elle diminue pas mal. Mais je n'écarte pas l'hypothèse que quand on aura analysé les échantillons qu'on a ramenés, que peut-être on en trouve à 50 voire 80 km. Je ne sais pas pour l'instant. On verra avec les analyses qui seront faites.
C'est vraiment une situation hors du commun.
Absolument.
C'est assez impressionnant.
Alors, moi, j'aimerais, si vous me permettez, venir un petit peu... le phénomène Fukushima n'a pas eu le retentissement qu'a eu Tchernobyl à l'époque. Un certain nombre de pays ont un programme de sortir du nucléaire. La France maintient son programme, voire même le multiplie, puisqu'il y a des générateurs de 4e ou 5e génération qui commencent à démarrer, qui sont en construction. Quel est votre sentiment sur la politique du tout nucléaire français? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen, peut-être un jour, de renverser la tendance?
Pour moi, je n'ai pas de position pour ou contre le nucléaire. La CRAD, ce n'est pas dans ses objectifs de militer pour la sortie du nucléaire ou pour le développement du nucléaire. Ce que moi, j'espère en tant que citoyen, en tant qu'association, c'est que Fukushima doit poser des questions sur notre nucléaire en France. On nous le dit qu'il est le plus sûr au monde. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas eu de catastrophe chez nous. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a le nucléaire le plus sûr au monde? Quand on voit que ce qui s'est passé au Japon, où une double agression externe violente sur un réacteur peut provoquer une catastrophe. Or, nous avons des zones sismiques sur la France, certes moins actives qu'au Japon, mais sismiques quand même, avec des centrales nucléaires dessus, et nous avons des fleuves où il y a plein de barrages dessus. Ces barrages peuvent lâcher à cause d'un sinistre. Et il peut bien y avoir un scénario à la japonaise, c'est-à-dire séisme plus lame d'eau, tsunami, comme on peut dire, qui sont des agressions externes violentes et sur lesquelles nos centrales, elles, n'ont pas été étudiées, elles n'ont pas été programmées. Ces scénarios-là n'ont jamais été imaginés. Donc, il a été classé comme hors dimensionnement, c'est-à-dire impossible. Moi, j'aimerais, c'est qu'on nous prouve que nos centrales sont capables de résister à ce genre d'agression extérieure. Ça, c'est le premier point. Après, il faut voir si le risque en vaut la chandelle. C'est-à-dire, sachant que, heureusement, il ne se produit pas des accidents tous les jours dans les centrales nucléaires. Là, il y en a eu deux en 25 ans. Il y a eu Three Mile Island avant. Oui. Eh bien, on s'aperçoit de la dimension d'une catastrophe nucléaire. Est-ce que les citoyens, et là je parle des citoyens au niveau démocratie, sont prêts à assumer ces risques? Et là il faut leur poser la question. Ou du moins, ça doit faire partie des sujets qui seront débattus dans les prochaines élections. Sinon, je pense qu'on passe complètement à côté d'une occasion de démocratie, de vraie démocratie, qui n'a jamais eu lieu effectivement par rapport au nucléaire.
Alors moi, j'avais juste une question en plus à vous poser, monsieur. C'est par rapport à votre site donc internet, lacrirad.org. J'ai vu que vous aviez fait une liste des centrales qui avaient des problèmes en France. Et je veux savoir quel était votre sentiment sur le test de conformité au niveau de la sécurité que va faire EDF. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être à minima, finalement?
Non, je ne crois pas que sur le site internet de la CRAD, on ait une liste des centrales.
Ah, j'ai dû me tromper de site, excusez-moi. C'est possible.
Pardon ?
J'ai dû voir un autre site, alors, pardon.
Oui, c'est
pas grave.
Nous, on n'a pas classé nos centrales.
D'accord.
Sur ce plan-là. On n'est pas des spécialistes de la sûreté nucléaire, donc on ne se prononce pas trop sur ce genre de sujet. On est des scientifiques, donc on est capable, je dirais, de lire des rapports, mais nous ne sommes pas capables de rédiger des rapports sur... quel type de séisme, quel type de boulon il faut mettre pour prévenir tel séisme. C'est des domaines des spécialistes. Jusqu'à présent, c'est des inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire qui faisaient ce travail. Le problème, c'est que dans la réévaluation qu'on est censé leur demander, il n'y a pas de nouvelles directives. Donc, on leur demande la même chose qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je ne vois pas ce qui va sortir de nouveau. Sauf si on leur demande de dire il faut reprendre complètement à zéro l'approche sûreté des installations nucléaires par rapport à des agressions violentes externes. Et là, il faudra bien qu'ils se posent la question, est-ce que notre approche était prudente ou pas par rapport à ce type de risque, agression externe. pour l'instant, j'ai le sentiment, c'est qu'il ne se passera rien de nouveau par rapport à la sûreté, parce que ce sont les mêmes personnes, avec les mêmes protocoles, qui vont évaluer la sûreté de nos installations nucléaires.
D'accord. Donc, c'est en gros, ce sont les mêmes personnes qui font Fukushima, pour faire vite, hein, qui vont être aussi... je ne parle pas de la France.
Je ne peux pas comparer à Fukushima, je ne connais pas, mais l'approche française de la sûreté nucléaire est une approche qui est toujours... qui est probabiliste, hein, c'est-à-dire on a une chance sur combien d'avoir l'accident grave, et quel type d'accident, quel type de scénario, c'est toujours un problème qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire d'une vanne qui se cointe, un tuyau qui se perce, etc., et où on a des parades, hein, qu'on a une situation peut-être problématique pendant un moment donné, mais qu'on a le temps de réagir, d'avertir le préfet, etc., et que c'est pour ça qu'on n'envisage pas des solutions radicales comme l'évacuation des populations, la distribution du yacht stable sérieusement, ces choses-là ne sont jamais abordées.
C'est juste.
C'est très curieux. C'est vraiment très curieux. Une dernière petite question. La médiatisation en France, elle est visiblement particulière. Vous avez pu le vivre, vous, en direct, avec l'arrivée du panache radioactif de Fukushima en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous pensez de cette... Est-ce qu'ils n'ont pas tiré une certaine conclusion de la catastrophe de Tchernobyl dans leur façon de réagir?
Alors, ce nuage qui nous est arrivé, il était annoncé, hein, à l'avance. Ça, c'est déjà surprenant. On l'attendait. Tout le monde l'attendait. Tout le monde, évidemment, nous, la CRAD aussi, on l'attendait. Mais les organismes officiels français qui sont en charge et payés sur fonds publics pour surveiller l'environnement et nous alerter et engager éventuellement des contre-mesures, c'est-à-dire des mesures de restriction de la consommation, des mises à l'abri, distribution du hot stock, tout ça, eux aussi attendaient ce nuage. Ils l'avaient annoncé et ils avaient annoncé en plus qu'ils allaient mettre en place un plan modèle. C'est-à-dire, ce ne sera pas grave, on sait, ce sera un petit panache, mais on va se faire comme si c'était un gros panache pour, en gros, se faire la main en cas d'accident beaucoup plus grave. Donc, l'idée était intéressante, pourquoi pas, c'est un exercice en grandeur nature, en gros. Sauf qu'on sait que ce ne sera pas grave. Et le résultat que nous, on peut tirer de ce qui s'est passé, c'est qu'on est très déçus. Pourquoi? Parce que le travail qui a été fait par les autorités françaises ne correspond pas à une qualité qu'on était en droit d'attendre en tant que citoyen, par rapport aux moyens qui sont mis à leur disposition de ces autorités, on constate qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites correctement, il y a des informations qui sont arrivées très tardivement, d'autres qui sont fausses, etc. On a donc des critiques à formuler sur la manière dont ça s'est passé. Et heureusement qu'effectivement c'était un petit panache qui est arrivé, parce que si ça avait été 100 fois ou 1000 fois plus important, alors là, on n'était pas devant un Tchernobyl bis repetita, mais pas si loin que ça. C'est pour ça qu'on a interpellé le Premier ministre, M. Fillon, et à nouveau, il y a un courrier qui lui repart demain donc pour l'interpeller en disant « Nous, on n'a pas envie que ça se reproduise. Si c'était un vrai accident, en France ou chez un voisin, que la radioactivité était beaucoup plus importante, eh bien, nous estimons qu'il aurait fallu s'y prendre autrement. Il faudrait s'y prendre autrement, être plus pertinent, être plus efficace, etc. Ce qui n'a pas été le cas. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la situation. Ce qui, effectivement, était un petit panache. Nous, on l'a bien mesuré dans la Drôme, là où on est équipé, hein, pour faire des mesures. Et on a vu que, oui, c'était mesurable. Et pourtant, on est à 15 000 km du Japon. Oui, c'était mesurable, des valeurs très faibles, mais qui auraient pu être beaucoup plus importantes.